Voilà, bonjour mes frères et mes soeurs. Vous pouvez vous asseoir. Je suis le seul qui reste debout. Voilà, effectivement, donc j'étais pendant une semaine absent pour ceux qui ne le savaient pas. Et ceci pour une banale question de passeport. Parce que les Suisses se demandent maintenant la présence du demandeur de passeport. Et puisque mon passeport touchait à sa fin, voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé. Et je voudrais juste vous rappeler que j'ai la double nationalité. Alors, Suisse, non pas français, pas encore, peut-être que ça vient encore, mais je suis aussi citoyen du ciel. Et là, je n'ai pas besoin de renouveler le passeport. Je dois tout simplement veiller à ce qu'il soit toujours en bon ordre. Et ça concerne chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Voilà, vous le savez, quand j'étais, j'en parlerai là tout à l'heure, je devais jouer le rôle de papa d'une certaine Manuela de Sainte-Marie pour son mariage. J'étais à la recherche d'une chemise blanche pour l'événement. J'entre dans un magasin, je ne veux pas vous le dire lequel, on ne fait pas de pub ici. Et puis donc, le jeune homme, il m'a dit, mais vous avez une bonne diction, vous jouez du théâtre? Je dis non, je suis pasteur. Alors, non, pour moi, vivre la vie chrétienne, ce n'est pas jouer du théâtre, c'est du vrai. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui jouent du théâtre en étant soi-disant chrétiens. Mais l'authentique chrétien, il met en pratique ce dont nous allons parler ce matin. Alors, avant d'ouvrir notre Bible pour notre texte, je voudrais juste vous dire qu'il y a une année, presque jour pour jour, que j'ai reçu un message du pasteur R.T. Kellner. Et c'est un homme qui a presque maintenant 90 ans. Il est l'auteur de je ne sais pas combien d'ouvrages. Un excellent prédicateur, un excellent théologien, et il a dit qu'il avait donc un pasteur qu'il a interrogé récemment et lui a demandé ceci, R.T. Qu'est-ce que tu aimerais encore accomplir avant de mourir? Alors il s'adresse à un vieillard, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu aimerais encore accomplir avant ta mort? Et R.T. Kendall a dit, mais ça c'est une question simple. Moi, j'aimerais voir les chrétiens prendre tout à nouveau la parole de Dieu au sérieux. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est un pasteur d'une longue expérience qui dit, je voudrais voir les chrétiens prendre tout à nouveau la parole de Dieu au sérieux. Et il a ajouté quelque chose, il a dit, aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent plus leur Bible. Parce qu'ils ne la lisent pas. Et j'ai à maintes reprises averti, je vous ai dit, moins d'Internet et plus de paroles. Vous m'entendez?
Oui.
Moins d'Internet et plus de paroles. Et je répète une phrase que notre prof nous a inculquée, comment voulez-vous évaluer un enseignement si vous ne connaissez pas votre Bible? Bien, ceci dit, on va tout de suite passer à l'action. Alors, nous sommes en plein sermon sur la montagne. Vous en avez déjà entendu plusieurs. Alors, voilà, donc, c'est la dernière version pour le mois de septembre. Et nous sommes donc au chapitre 5, où nous avons les fameux versets 13 à 16. Matthieu, chapitre 5, où vous avez le début du sermon sur la montagne. Et là, nous allons lire ensemble les versets 13 à 15. Et je vous invite, si vous avez une Bible, lisez avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, vous écoutez ou vous lisez chez votre voisin. Alors, on y va. Vous êtes le sel de la terre. Alors, j'ai mis là un petit... Je ne sais pas comment vous appelez cela. Comment vous appelez ça?
Salière.
D'accord. Ok. Alors, Jésus ajoute aussitôt quelque chose. Nous allons y arriver, bien sûr. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Et vous avez peut-être constaté qu'il y a beaucoup d'ampoules qui sont éteintes, et il y en a une seule qui est allumée. C'est vraiment l'image du chrétien dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et nous disons Amen. Amen. Et je vous demande de garder votre Bible ouverte, parce que nous allons revenir sur certains passages. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Michael Jordan? Certainement. N'est-ce pas, Michael Jordan, c'est un nom bien connu. On le considère comme étant le plus grand joueur de basket du monde. Et vous savez, il a fait sa formation d'une universitaire dans la Caroline du Nord. Et celui qui a exercé la plus grande influence sur lui dans le domaine du sport, c'était le légendaire Dean Smith. Et plusieurs années plus tard, donc il revient à son ancienne université, c'était pour assister à un match ensemble avec un ami. Mais ils ont pris du retard et quand ils arrivent sur le parking, ils constatent que toutes les places sont prises à l'occasion d'une. C'est son ami qui avait repéré, c'était un parking réservé aux handicapés. Et son ami dit, Michael, prends la place, elle est vide. Et Michael Jordan dit ceci, oh non, je ne pourrai jamais faire cela, parce que si Dean Smith apprend que moi j'ai occupé la place réservée aux handicapés, je ne pourrai plus le regarder en face. Frères et sœurs, si vous voulez avoir un exemple d'influence, d'impact, en voilà, vous en avez un. Voilà donc ce coach qui a impacté, qui a influencé la vie de ce grand joueur de basket. Et frères et sœurs, nous sommes appelés, tels que nous sommes ce matin, à être des hommes et des femmes qui exercent de l'influence sur les autres. Influence dans notre société. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus suggère dans le texte que nous venons de lire. Alors, j'ai un titre pour notre message, et ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le chrétien comme influenceur dans un monde toujours plus corrompu. Vous êtes d'accord avec la dernière partie? Le monde est de plus en plus corrompu, et nous chrétiens, nous sommes appelés à être des influenceurs. Et je voudrais répartir notre message ce matin en trois points. Et nous avons encore une fois un problème, merci. Alors tout d'abord, nous avons le chrétien en tant que sel de la terre. Ensuite, le chrétien comme lumière du monde. Et finalement, nous avons le chrétien qui donne envie aux hommes de glorifier Dieu. Est-ce que vous aimeriez être un tel chrétien dont le comportement dans les bonnes œuvres donne envie aux gens du dehors de glorifier le Seigneur? Alors, frères et sœurs, vous savez que notre pasteur, il a décrété que nous parlons sur le comportement des citoyens du royaume de Dieu. Et donc, c'est ce que le Seigneur Jésus fait à travers son sermon sur la montagne. Et vous savez que c'est un enseignement extrêmement riche, il est profond, il est puissant, il est dynamique, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et vous pouvez donc comprendre la foule. Quand vous lisez la fin de ce sermon sur la montagne, chapitre 7, n'est-ce pas que la Bible dit « La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant de l'autorité et non pas comme leur scribe. » Frères et sœurs, la foule fut frappée. Et pourquoi donc? Vous savez, parce que Jésus était le meilleur Moïse. Il est le plus grand Moïse. Il est celui qui a pu dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Et Jésus ajoute quelque chose. Il va plus en profondeur, il va plus loin. Et c'est cet enseignement que nous avons aussi devant nous ce matin. Alors, frères et sœurs, vu le fait de la richesse de ce sermon, il y a un célèbre enseignant de la parole de Dieu, il s'appelait Bob Mumford, il est maintenant auprès du Seigneur, il a appelé ces trois chapitres la constitution du royaume de Dieu. Vous n'ignorez pas, chaque pays a sa constitution. Et le royaume de Dieu n'y échappe pas, le royaume de Dieu a une constitution. Un enseignement, et c'est ce que nous trouvons donc dans Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Et frères et sœurs, dans cet enseignement, nous avons entre autres le devoir, la tâche, le mandat, la mission que le Seigneur, il nous montre. Alors je voudrais vous montrer trois choses que vous trouvez au début de ce sermon sur la montagne. Et ça c'est, il développe surtout au début trois pensées, c'est tout d'abord, il parle de nos motivations et de nos attitudes. Dans un deuxième temps, vous avez le comportement du citoyen du royaume de Dieu, et finalement il est question de l'influence. Et frère et sœur, nous pourrions les résumer comme suit, nos motivations et nos attitudes détermine notre comportement. Et notre comportement détermine le degré d'influence que nous exerçons dans ce monde. Alors, vous pouvez maintenant faire votre propre déduction, votre propre constat. Frères et sœurs, je voudrais juste comparer les béatitudes avec notre texte. Juste brièvement, vous avez dans les béatitudes les promesses, les bénédictions, les grâces qui nous incombent quand nous remplissons certaines conditions. Un exemple, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc, si je veille à avoir un cœur pur, la récompense, c'est que je verrai Dieu. Mais, frères et sœurs, lorsque nous arrivons à notre texte, le Seigneur Jésus ne parle pas de promesses, mais maintenant il est question de notre mandat dans ce monde, de notre mission. Et ici, vous en avez une double mission, parce que Jésus, il utilise dans ces quatre versets deux puissantes métaphores. Il parle de sel, et il parle de lumière, et nous allons donc ensemble les voir, les examiner. Alors on commence avec le chrétien, en tant que sel de la terre. Donc évidemment, quand je parle de sel, je parle en tant qu'aliment, donc c'est quelque chose que nous utilisons dans notre cuisine, et je voudrais vous dire que nous pouvons voir le sel avec trois qualités particulières. Si je vous demandais pourquoi, quand vous entendez parler de sel, à quoi pensez-vous? Eh bien donc, je voudrais vous montrer trois qualités. Et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est toi ou c'est moi? C'est vrai. Excuse-moi. C'est toi. Les trois qualités. Tout d'abord, le sel en tant que conservateur ou préservateur. Donc, évidemment, on va approfondir cela un peu. Un agent qui garde de la corruption. Dans un deuxième temps, vous savez que le sel donne de la saveur. Et finalement, donc, quand vous utilisez beaucoup de sel, quel est le résultat? Vous aurez soif. Nous allons voir donc ces trois qualités, et évidemment, nous allons maintenant les appliquer à nous, puisque Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, si je suis sel de la terre, dans ce cas-là, je devrais exercer un impact préservateur dans la société. Si je suis sel dans ce cas-là, je devrais avoir de la saveur, je devrais donner de la saveur, et si je suis sel de la terre, je devrais provoquer la soif. On va examiner cela. Alors, nous commençons avec le sel en tant que préservateur. Vous savez, l'image qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est la morue. Nous savons tous, c'est la morue, c'est donc plein de sel. Donc, c'est la morue, c'est le sel qui a empêché donc, ce poisson donc, de périr. Que nous pouvons encore l'utiliser, ceci des semaines et parfois des mois plus tard. Donc voilà. Et ça, c'est, mes frères et mes sœurs, notre devoir. Nous avons été placés ici pour que nous puissions préserver la société d'une corruption totale. Nous vivons dans un monde corrompu. Et tout le monde est d'accord quand je dis, aujourd'hui, on appelle le bien mal, et le mal, bien. N'est-ce pas? Nous constatons comment la violence, l'immoralité, l'injustice, tout cela augmente. Mais, en tant que chrétiens, nous ne levons pas les bras vers le Seigneur. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, nous voulons faire quelque chose. Nous voulons empêcher la corruption totale de s'installer dans ce monde. Vous êtes d'accord? Et c'est la raison pour laquelle Jésus, une fois que nous sommes convertis, nous laisse sur terre. Bon, il y a encore quelques autres raisons, mais il a prié dans la prière sacerdotale, il a dit ceci, « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et puis il ajoute encore en disant, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Alors mes frères et mes sœurs, nous sommes ici-bas, nous sommes dans ce monde pour le préserver d'une corruption totale. Alors tout à l'heure, j'ai mentionné Pope Mumford, un enseignant que j'appréciais beaucoup. Et vous savez, il était pendant 3 ans dans la marine militaire américaine. Et lors d'une escale à Atlantic City, il a eu l'occasion d'assister à une réunion d'évangélisation dans une église évangélique et il s'est converti. Quand il a regagné son navire, il s'est aperçu que la situation n'était plus la même. Alors il a voulu rejoindre un groupe de ses collègues marins, n'est-ce pas, qui étaient en train de rire et de blaguer, et vous savez donc avec un langage pas tout à fait sanctifié. Lorsqu'ils ont aperçu Bob, ils se sont arrêtés. Tout s'est arrêté. Alors Bob n'avait pas du tout l'intention de leur prêcher, mais tout simplement, sa présence a impacté les autres. Parce qu'il y avait quelques grains de sel qui a été répandu dans un groupe où il y avait la corruption. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout à coup, des nouveaux testaments apparaissent. Tout à coup, il y a des groupes qui se forment pour étudier la parole de Dieu. Et tout à coup, au lieu de faire la bringue, eh bien, il y a des collègues qui frappent à sa porte à 2h30 le matin parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils sont en souffrance morale ou spirituelle. Frères et sœurs, c'est tout simplement quelques grains de sel qui ont été déversés dans ce groupe de marins. Alléluia! Et donc, alors nous aussi, nous sommes appelés à exercer ce genre d'impact et d'influence dans la société. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple. Frank Lush, je n'avais jamais entendu parler de cet homme. Frank Lush était un chrétien engagé de l'église presbytérienne à Chicago, aux États-Unis. Et il vivait à l'époque de la prohibition. Est-ce que vous savez ce qu'est la prohibition? C'était lorsque l'alcool était interdit. Et d'ailleurs, donc, à cause des protestants, vous savez donc comment, bien des États, c'était interdit de consommer de l'alcool. Mais il y avait là un gars qui allait à l'encontre de la loi et qui s'est fait des gros sous. Et vous avez entendu son nom, certainement, c'était Al Capone. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ce gangster? Al Capone qui faisait la loi. Et vous savez quoi, il y avait ce Frank Lush, ce chrétien qui a dit « Ah non, on va arrêter ça. » Et il a constitué une commission anti-crime. Et tandis que cette commission était en train de se réunir, eh bien, lui-même était menacé, sa famille, ses amis étaient en danger. Parce que, imaginez-vous, parce qu'il touche un gros morceau, il est là sans aide gouvernementale. La police locale, la police de l'État et le FBI ont peur des répercussions par rapport à Al Capone. Mais Frank Lush est un chrétien, celle de la terre. Je suis appelé pour empêcher la société de s'enfoncer dans la corruption. Et finalement, il a gagné le procès. Et Chicago a été libéré d'un fléau dans la personne de Al Capone et de toute l'influence qu'il avait exercée. Frères et sœurs, c'est magnifique de voir. Donc ça, c'est notre appel, notre vocation. J'ai encore une question. Vous avez entendu parler de Francisco, l'artiste. J'ai regardé sur Internet et il est annoncé comme Francisco, l'artiste avec un A majuscule. Est-ce que vous savez qu'il était mon voisin pendant quelques mois? Et un beau jour, il est venu nous voir. Et je me souviens d'une phrase qu'il m'a dite, qu'il nous a dite. Il a dit, par votre présence, vous purifiez votre quartier. Hey, c'est un compliment. D'autant plus qu'elle vient de la bouche de l'homme du monde, Francisco, c'est le monde. Hein. Donc, alors, frères et sœurs, c'est tout simplement pour vous montrer que effectivement, nous sommes appelés à être sel de la terre et préserver la société de la corruption. Je voudrais vous parler d'un homme. Maintenant, j'ai besoin de toi. Tu vois. Alors, tu peux encore aller un peu plus loin parce que j'ai sauté celle-là. Edmund Burke était un homme d'État du XVIIIe siècle, un Irlandais, et il a fait, il est devenu célèbre pour cette déclaration. Tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les gens, de bien, les braves gens, ne fassent rien. Combien c'est vrai? Alors donc, vous savez, la raison pour laquelle le mal peut encore abonder, c'est parce que beaucoup de chrétiens ont croisé leurs bras. Mais je voudrais donc vous rappeler la réalité, la vérité de cette déclaration. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Je voudrais dire que nous pouvons exercer une influence positive sur un plan personnel, individuel, mais nous pouvons le faire surtout sur un plan collectif. Lorsque nous agissons en tant que communauté qu'Église. Et je voudrais vous rappeler les grands enjeux de la société, comme par exemple l'avortement. Et surtout donc le délai qu'on veut repousser encore. Et puis bien sûr, donc il y a l'euthanasie. Donc vous savez que M. Macron, il veut absolument donc que ce soit voté, et c'est en bonne voie, à moins que nous fassions quelque chose. Vous m'entendez? Vous avez peut-être appris que nous avons eu donc la visite à Marseille de notre cher frère François. Enfin, hein? Donc, et hier, donc, en écoutant les nouvelles, j'ai appris que François avait dit quelque chose par rapport à l'euthanasie. Et donc, peut-être s'est-il brûlé les doigts, parce qu'il connaît fort bien donc la pensée de M. Macron, mais de toute façon, il a eu le courage d'élever la voix contre l'euthanasie. Parce que Dieu ne veut pas que nous mettions une main fin à notre vie, n'est-ce pas? La vie est un cadeau, et je sais qu'il y a des situations précaires, mais frères et sœurs, donc nous avons un rôle à jouer. Mais comment? Je voudrais vous proposer 4 points. Merci. Alors, tout d'abord, par nos prières, par notre intercession et notre combat spirituel. Et je dois dire quelque chose, et maintenant je m'adresse à ceux qui animent les réunions de prière. On ne prie pas assez ici pour les thèmes de la société, justement comme l'euthanasie. Je crois que nous devons nous tenir informés de ce qui se passe dans le monde, que nous puissions impacter aussi ces grandes questions. Alors donc, c'est la raison pour laquelle je dis, oui, nous devons nous informer, nous devons nous intéresser à ces sujets, et nous devons nous documenter. Et puis, la troisième chose que je propose, Vous savez qu'il y a des pétitions qui sont sur Internet. Pétitions, les unes sont d'organisations chrétiennes, d'autres ne sont pas nécessairement chrétiennes, mais donc ils sont là pour défendre nos droits. Alors, frères et sœurs, il est bon que nous signions ces pétitions si ma conscience dit oui. Et donc, finalement, donc, vous pouvez même écrire à votre député. Ça fait partie de notre rôle quand nous disons « Je suis sel de la terre, le sel est là pour empêcher la corruption. » Juste avant-hier, j'ai reçu la nouvelle suivante et je l'ai également mise sur voilà. Les membres de la coalition gouvernementale, les chrétiens démocrates de Suède, ont poussé le gouvernement à retirer son projet de loi visant à simplifier le changement juridique du genre. C'est encore un autre sujet, le transgenre, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on veut imposer aux petits-enfants déjà dans leur place. Frères et sœurs, cela ne doit pas nous laisser indifférents. Si nous sommes sel de la terre, cela doit nous concerner. Alors, je voudrais juste vous dire, voilà des chrétiens qui n'ont pas croisé les bras, mais qui ont fait le nécessaire pour que le gouvernement soit obligé de retirer une loi. Moi, je dis magnifique. Magnifique. Deuxièmement, le sel donne de la saveur. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui actuellement suit un régime sans sel? Non? Vous êtes tous des chrétiens salés? Frères et sœurs, nous savons tous, le sel ajoute un plus à nos repas, nos plats, à nos aliments. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimeriez être privé de sel? Vous devez savoir aussi encore que la médecine nous apprend que nous avons besoin de sel. Personnellement, j'en suis privé longtemps, mais je comprends que c'est important de prendre quand même aussi de la sel. La question est maintenant, est-ce que je suis un chrétien salé? Est-ce que j'ai de la saveur? Est-ce que je donne envie aux autres, à ceux qui me côtoient, de connaître le Seigneur? Alors, je sais que Stella était là, elle a même fait une photo. Il y a 15 jours, j'étais donc le papa qui remplaçait le vrai père de Manuela à Sainte-Marie. D'ailleurs, donc, il y a quelqu'un qui a vu les photos qui a dit « On aurait cru que c'était toi le mari. » Mais donc, ce n'est pas tout à fait la vérité. Il y a quand même une grande différence d'âge. Alors, frères et sœurs, avant qu'il y ait mariage entre Manuela et Kevin, Kevin, c'est un médecin urologue camerounais, avant qu'il y ait mariage, il y avait Manuela qui était celle de la terre. Kevin était impressionné par son comportement. Kevin a pris goût à redonner sa vie au Seigneur. Il avait un arrière-plan chrétien. Et cela l'a poussé finalement à se faire baptiser. J'ai assisté au baptême. Je voulais être là puisque je devais jouer le rôle du papa. Donc dans cela, je voulais être sûr que mon beau-fils, entre guillemets, n'est-ce pas, soit bien trempé. Voilà. Donc, alors, frères et sœurs, juste pour vous dire, ce mariage est un témoignage de quelqu'un qui s'est comporté comme celle qui donne envie, la saveur. Voilà. Alors, et puis finalement, nous avons encore l'exemple, tu peux me donner encore la suivante. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le film Fireproof? Oui. Vous rappelez-vous un peu l'histoire? Oui. Vous savez comment Kevin, tout d'abord, donc il a suivi les conseils de son père, ce n'était pas par conviction, mais à un moment donné, il a compris le sens du christianisme. Il a compris le sacrifice de Jésus et sa vie a complètement changé. Alors vous devez savoir que Kevin était marié et sa femme a demandé le divorce à cause du mauvais comportement de son mari avant sa conversion. Mais maintenant, elle constate un changement radical. Cet homme, égoïste avant, devient sel de la terre. Il y a de la saveur. Il donne envie. Et finalement, donc, elle dit, je veux vivre ce que tu as vécu. Je veux connaître ce que tu connais. Frères et sœurs, ça c'est notre mandat. Alors, je voudrais vous rappeler, mes frères et mes sœurs, donc tout à l'heure nous avons dit que le sel a trois fonctions. Donc la troisième, ça c'est donner soif. Et visiblement, Caleb, dans ce film Fireproof, a donné soif à son épouse à connaître le Seigneur. C'était un double salut. Le salut d'une âme, celle de l'épouse, et le salut d'un mariage, grâce au Seigneur. Est-ce que vous avez noté maintenant, je vous demande de jeter un coup d'œil dans votre Bible, verset 13, parce que tout de suite quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », il ajoute une mise en garde. Il dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Jésus nous met ici en garde contre la possibilité de perdre notre témoignage, de perdre notre impact, de perdre notre influence. Alors donc, et je voudrais vous dire, cela est facile parce que nous pouvons le perdre par notre comportement qui laisse à diriger, des désirés. Je suis en train de correspondre avec un couple de Néerlandais qui habitent en Belgique maintenant, des chrétiens, Pedro et Sophia. Et Sophia m'a dit que le père de Peter était orphelin. Il a grandi dans un orphelinat et il a été tellement dégoûté, un orphelinat catholique, que par la suite, il ne voulait plus rien savoir de Dieu. Alors, frères et sœurs, imaginez un peu, tu es dans un orphelinat catholique. Les responsables sont donc censés te donner une éducation chrétienne qui donne envie à connaître le Seigneur, à servir le Seigneur, n'est-ce pas? Mais ici, c'est le contraire. Et donc, ils ont complètement démoli spirituellement ce jeune homme qui, par la suite, ne voulait rien savoir de l'Évangile, de Dieu, de la foi dans notre Seigneur. Ça, c'est perdre sa saveur. Et je voudrais donc vous rappeler, vous qui êtes parents et vous avez des enfants, vous devez veiller à ce que vos enfants n'aient pas une mauvaise image de Dieu, et surtout aussi de vous. Ne soyez pas chrétien à la salle et un autre chrétien, ou excusez l'expression, peut-être crétin, à la maison. Pas un double comportement, mais vraiment, donc veillons à ce que nous ne perdions pas la saveur. Eh bien, je voudrais maintenant passer donc à j'ai encore un point que nous allons voir, tu peux sauter un, mais encore, voilà. L'apôtre Paul, il nous dit que le sel joue un rôle dans nos conversations. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, chapitre 4 et le verset 6 de l'épître de Paul aux Colossiens, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Cela veut dire, alors, j'avoue, je dis parfois des choses, ma langue est parfois plus vite que mes pensées. Ça vous arrive aussi? Je suis un peu comme Pierre, parfois. Pierre, donc, il était tout de suite, il avait dit quelque chose, et puis après, il réfléchit. Alors, ici, l'apôtre Paul veut dire, quand nous parlons, nos paroles devraient avoir un impact favorable, n'est-ce pas? Assaisonné de sel. Et moi, je dirais, donc, il utilise deux ingrédients, grâce et sel, et il dit, au fond, que nous devons veiller à ce que nos paroles aient un sens. Ce sont des paroles sur mesure. Ce n'est pas du blabla religieux, des clichés, toutes faites, non. J'ai des suggestions, des propos, j'ai des conseils sur mesure, parce que ce sont des conseils qui sont assaisonnés de sel. Deuxièmement, le chrétien en tant que lumière du monde. Alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. C'est un des sept grands « je suis » dans l'évangile selon Jean. Parce que vous savez qu'à sept reprises, Jésus a dit « je suis ». Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le dernier, c'est chapitre 15 et le verset 1er. Je suis le vrai Seigneur. Frères et sœurs, et maintenant Jésus dit, je suis la lumière du monde, mais je veux que mes disciples le soient aussi. Et au fond, nous avons ici l'image du soleil et de la lune. Vous rappelez-vous? La lune, elle est morte en elle-même. Et si vous voyez la pleine lune, ce n'est pas parce qu'elle a de la lumière en elle-même, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Ainsi, nous aussi, nous reflétons la lumière que nous recevons du Seigneur. Et plus notre intimité avec Dieu est grande, plus notre lumière sera brillante. Alors, nous sommes lumière du monde. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, par notre lumière, nous impactons des vies. Nous conduisons des gens hors de leur obscurité, hors de leurs ténèbres, hors des puissances des ténèbres, vers la lumière salvatrice de notre Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de l'effet, de l'influence, de l'impact que nous pouvons exercer dans ce monde en tant que lumière dans le monde? Alors, vous savez peut-être, j'en ai parlé ici certainement, que j'ai reçu la demande d'une chrétienne, c'est notre sœur André Sabat, qui m'a dit, il y a une jeune chrétienne martiniquaise en métropole qui voudrait entrer en contact avec un pasteur. J'ai pensé à toi. Est-ce que je peux lui donner tes coordonnées? Je dis, il n'y a pas de problème. Peu de temps après, quelqu'un m'a téléphoné, Margie. On a échangé. Je l'ai écouté. Et je crois que j'avais des paroles assaisonnées de grâce et de sel. J'ai pu l'amener au Seigneur, là, au téléphone. Alléluia. Margie est passée de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Vraiment, j'ai pu être à distance, lumière du monde pour elle. Mais cela ne s'arrête pas là. Maintenant, chaque semaine, je fais un cours. Ça fait maintenant depuis des mois. Et pendant mon voyage, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Donc, on s'est vu en chair et en os. J'ai été accompagné par le docteur Schmidt, un neurologue chrétien. Et donc, nous avons pu faire sa connaissance maintenant personnellement. Juste pour te dire, je me réjouis des progrès que cette jeune femme fait. Et elle a un ardent désir de se faire baptiser et elle voudrait le faire ici. Alors vous pouvez penser à elle parce qu'elle a un problème de santé qui pourrait l'empêcher de voyager par avion. Alors vous pouvez demander au Seigneur aussi de la toucher dans son corps afin que son désir de passer par les eaux du baptême puisse être concrétisé. Mes frères et sœurs, c'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Et est-ce que vous avez noté que Jésus ajoute quelque chose? J'y reviens. Je voulais partager avec vous une petite anecdote que Billy Graham a racontée, le grand évangéliste. Il raconte l'histoire d'un homme qui est visiblement grisé par l'alcool. Il fait nuit. Il est là sous un lampadaire en train de chercher quelque chose. Arrive un ami qui le reconnaît en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit « J'ai perdu mon portefeuille, je suis en train de le chercher. » Alors cet ami lui dit « Mais je peux te donner un coup de main ?» En disant « Eux, ils ont cherché pendant un certain temps, et n'ayant rien trouvé, cet ami dit « Mais est-ce que tu es sûr que tu l'as perdu ici ?» Il a dit « Bien sûr que non, je l'ai perdu là-bas. » Je dis, mais pourquoi tu cherches ici et pas là? Là, je dis, parce qu'ici, il y a la lumière et là-bas, il n'y en a pas. C'est ça, hein? La lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est la lumière qui fait toute la différence. Nous sommes la lumière. Et maintenant, est-ce que vous regardez encore une fois dans votre Bible, Jésus, il nous compare en tant qu'Église à une cité qui se trouve sur une colline. Vous savez, quand je lis cela, je dois toujours penser à Gaudissart et Bebrillant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ces deux cités, à Fort-de-France, dans les hauteurs, mais la nuit, tu vois ça. Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. L'Église, si elle suit l'enseignement de Jésus, ne peut pas être cachée. Et maintenant, lisez avec moi encore le verset 15, s'il vous plaît. « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Voilà. Alors, je dois quand même regarder ma montre et je voudrais passer à notre dernier point, le chrétien qui donne envie aux hommes de glorifier Dieu. Verset 16, relisez encore une fois avec moi. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Jésus nous montrait qu'une façon de faire briller notre lumière, c'est à travers nos bonnes œuvres. Je voudrais tout de suite vous dire, frères et sœurs, je cite ici Léon Maurice, un éminent théologien. Il a dit ceci, et ma chère sœur Laurie va nous le montrer, « Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nous ne serons pas non plus sauvés sans les œuvres. » Je m'explique. Le salut sera toujours le fruit de ma foi et de la grâce de Dieu. Tu peux dire « Amen » là-dessus, parce que c'est un fait irréversible. Mais une fois que je suis sauvé, une fois que je donne une démonstration de ma foi, et je me suis confié à la grâce du Seigneur, ma vie change. Et je devrais maintenant être un témoignage à travers ma conduite et mes œuvres. Et ce matin, je voudrais te poser la question, quelles sont tes œuvres? Jésus parle ici de bonnes œuvres. Un peu plus tard, il parle de l'arbre que l'on reconnaît à ses fruits. Est-ce que mes œuvres sont bonnes? Est-ce que mes œuvres poussent les autres, même les inconvertis, à glorifier Dieu? Donc, c'est donc le but du Seigneur avec nous. J'avais raconté ici l'histoire de ma dernière, Jessica. Il passe par des moments difficiles. Vous pouvez penser à elle si votre cœur vous le dit. Jessica, elle se trouve dans un magasin et la caissière lui rend 10 euros de trop. Et sur le coup, elle ne dit rien. Par la suite, elle a honte. Le lendemain, donc, tu sais, elle a une conscience chrétienne. Elle sait très bien ce qu'il faut faire. Le lendemain, elle se retrouve à la caisse. La même personne est là. Elle dit, « Madame, vous m'avez donné 10 euros de trop. » La caissière, bien sûr, la veille, elle s'était aperçue qu'il y avait donc une différence de 10 euros. Elle était embêtée. Alors, elle a remercié ma fille, je ne sais pas combien de fois, mais juste pour vous dire, c'était une bonne œuvre qui a poussé, qui a touché le cœur de cette caissière. C'est ce que nous devons faire. Alors, il me reste juste une dernière chose à souligner. Avez-vous noté, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes. Quand vous parcourez le sermon sur la montagne et vous allez vous apercevoir que Jésus parle à la fois de faire le bien, mais il parle aussi du fait d'être bon. Et Oswald Chambers, dans sa célèbre collection de méditations, vous avez l'édition anglaise, plus de 13 millions d'exemplaires de ce bouquin, c'est incroyable. Alors, il dit ceci, et ma chère sœur Laurie a affiché le précieux Oswald Chambers, le fait de bien faire peut seulement être surpassé par le fait d'être bon. Bien sûr, nous devons faire le bien, mais nous devons surtout être bon. Et c'est quand nous sommes bons que découlent les bonnes œuvres aussi, normalement. Je termine en vous posant trois questions qui vont s'afficher. Est-ce que j'exerce une influence quelconque sur les gens? Pose-toi cette question. Deuxième question. Est-ce que je donne envie aux gens de connaître Dieu? Mon style de vie, ma façon de me comporter, surtout pour ceux qui ont le loisir de m'observer, ma propre famille, mes voisins, mes collègues de travail, etc. Et troisième question, est-ce que j'éclaire la vie des autres?